Avis de valeur, une émission présentée par Henri Buzicazo.
Je salue les auditeurs d'Avis de valeur. On va parler, et toujours avec la même recette, c'est-à-dire avec deux regards qui vont se croiser, le regard de, d'une personne, d'une personnalité de l'immobilier qui a des responsabilités, en l'occurrence, ce sera à la tête d'une grande entreprise leader du domaine de la gestion locative et de la location, et puis quelqu'un qui est très très proche du terrain. On va parler d'un sujet de vive actualité. D'actualité doublement, parce que bien sûr, le marché locatif, c'est toujours d'actualité. On a en France, je vous le rappelle, 40% de locataires, et dans nos grandes villes, c'est 60% des logements qui sont occupés par des locataires et détenus par des bailleurs. Et puis, tout simplement, c'est une période de changement pour les ménages et donc de location, de relocation. On va parler de l'état des logements mis en location. C'est un grand sujet. On va parler du service qui est apporté aux locataires par les propriétaires bailleurs avec l'intermédiation dans un certain nombre de cas. Dans 35% des cas, ce sont des intermédiaires, des administrateurs de biens qui sont là. On va parler de la situation du marché locatif, aussi bien dans l'intermédiation que dans l'absence d'intermédiation. On va le faire avec Jennifer Laroussarias, qui est à ma gauche. Elle est, on va dire qu'elle a un passé d'entrepreneur en bâtiment. C'est pas si fréquent que ça pour quelqu'un qui aujourd'hui intervient dans l'univers de l'immobilier. Elle a été diagnostiqueur immobilier et aujourd'hui elle met ses compétences au service de la formation continue des femmes et des hommes qui font de la location, de la gestion locative, mais aussi des gardiens d'immeubles dans l'univers privé. Dans l'univers HLM. Bonjour Jennifer.
Bonjour Henri.
Et on va le faire avec Facel, Gaëlle Rivière. Je parlais d'une femme qui a des responsabilités dans une grande entreprise. Elle est tout simplement dans une maison qui est le leader national de l'immobilier, c'est Nexity. Et elle est dans la branche Nexity Service. Là, on parle d'administration de biens, de location, de transactions. Elle est la responsable de la performance commerciale pour la gestion locative. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Henri.
Autre règle du jeu, on est à l'écoute de ce que pensent les gens, comme dirait M. Mélenchon. Moi j'aime bien cette expression, ce que pensent les femmes et les hommes qui sont dans la rue, qui sont les clients des administrateurs de biens, qui sont les locataires potentiels des propriétaires, mais aussi des propriétaires, de manière indistinctive. On est allé les voir et on leur a posé des questions. Et c'est notre productrice, qui est Charlotte Eckert, qui a pris la peine d'aller prendre le pouls de l'opinion. On va tout de suite demander aux ménages français, comment ils voient les choses en matière d'état des logements locatifs avec trois séquences. On y va.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de l'état des logements loués? Avez-vous une expérience bonne ou mauvaise à partager avec nous?
Bah écoutez, ça dépend, je pense, surtout de la ville en question. Et bah par exemple, moi, quand j'étais étudiant, j'étais à Marseille. À Marseille, j'avais quoi? J'avais 20 balais. Et franchement, j'ai vivé dans des 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. J'étais pas en chambre étudiante, j'étais dans le parc privé, quoi. Enfin, j'ai passé avec un particulier et j'avais un appart, mais qui était pourri. Pourri, mais bon, j'avais pas le choix. Il y avait de l'eau qui... il y avait des fuites de partout. L'immeuble tremblait aussi. Alors ça m'a inquiété, vraiment, parce que je m'en étais pas rendu compte lors de la visite. Et après avoir fait quelques soirées dans l'appart, je me suis rendu compte de ça, donc... Donc ouais, ça m'a fait flipper un peu à Marseille. Donc ouais, ça dépend des villes. Ça dépend des villes, ça dépend des quartiers, ça dépend des rénovations faites par les propriétaires. Donc en vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, à Marseille, ouais, c'était tendu comme situation.
Bien, actuellement, je loue un logement qui est très correct, donc dont je suis assez contente. Mais ça m'est arrivé il y a quelques années de louer un logement à Paris beaucoup trop petit. Je pense même que c'était pas légal.
Les logements sont loués en très mauvais état, je trouve. C'est assez rare de trouver des logements en bon état. Je suis actuellement justement à la recherche d'un appart. Et c'est vrai que c'est un truc qui est très réticent parce que je trouve des logements où il y a beaucoup de travaux à prévoir et en tant que locataire, c'est pas super quoi.
Bon, nos compatriotes ont du bon sens et puis de l'expérience. Alors c'est vrai que On a tous été locataires, même si ensuite on a eu la chance d'accéder à la propriété. Et dans celles et ceux qui ont été interrogés par Charlotte et Kerl, il y a les deux. Il y a celui qui dit c'est par un particulier que j'ai loué mon logement. Il y a ceux qui sont en situation d'intermédiation. Là, de manière sans distinction, Gaël, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'état du parc locatif? On rappelle que c'est 6,7 millions logements en France qui logent quelque chose comme 15, 16 millions de Français, et qu'un tiers est dans les mains des professionnels. Dans quel état peut-on dire que ce patrimoine aujourd'hui se trouve, sachant que c'est une offre de service pour des locataires? On parle bien de vendre un service. En contrepartie, c'est un loyer élevé en zone tendue. On l'a entendu d'ailleurs, c'est « j'avais pas le choix, j'ai dû le prendre, les loyers ont été élevés ». C'est ça la réalité.
Écoutez, en effet, quand on regarde et quand on écoute un petit peu, on se rend compte que c'est... Il parle beaucoup des villes.
Oui.
Enfin, finalement,
oui.
Les deux expériences un petit peu, si je peux me permettre, négatives. On parle de Marseille, on parle de Paris.
Grande ville.
On sait aussi que c'est des zones très tendues où finalement, y a une forte demande et que, en fait, on peut accéder à la location par des moyens pas forcément... toujours, je ne sais pas si c'est légal, mais en tout cas, avec des gens qui n'ont pas forcément la bonne vision de comment on doit louer un appartement. C'est vrai que nous, en tant que professionnels, on insiste énormément, et quitte à se dire, en fait, on ne va pas louer le bien, peut-être même parfois dire à un client, on ne gérera plus votre bien.
On refuse un mandat.
Voilà, en refusant un mandat, parce qu'en fait, on est... Et la politique aujourd'hui, c'est vraiment de travailler, et je pense que Jennifer pourra conforter, mais sur la notion du logement décent. Et entendre que c'est la première personne qui en parle et qui dit j'entendais l'immeuble trembler, c'est pas des situations qui sont que nous on accepte en tant que tel. Après l'état des logements,
il y a eu des drames on parlait de Marseille, à Paris, pas très loin du sud dans lequel on est, il y a eu des effondrements d'immeubles, donc oui, c'est des réalités, ça.
Mais il y a des prises de je pense que les professionnels aujourd'hui ont une vraie prise de conscience sur sur ce logement, sur l'état du logement. C'est véritablement, et aujourd'hui, il faut quand même qu'on se rende compte de quelque chose, c'est que derrière, on a la responsabilité d'un professionnel. Louer un logement qui n'est pas décent, c'est s'engager, c'est potentiellement engager la responsabilité. On ne peut pas le faire. Et puis après, c'est ce que vous disiez, Henri, finalement, aujourd'hui, nos locataires sont des clients. Et on se doit de leur donner un logement dans lequel ils peuvent vivre correctement et sainement.
Gaël, je vais poser la question qui fâche, mais est-ce que les gestionnaires, les administrateurs de biens, les patrons de cabinet, je ne parle pas de Nexity, très largement, vous avez de l'expérience, vous connaissez la communauté professionnelle, est-ce qu'ils considèrent toujours le locataire comme un client? Est-ce que le premier client, ce n'est pas le propriétaire, y compris s'il n'a pas envie de faire des travaux, y compris si ce qu'il doit louer n'est pas au top?
Alors, clairement, le locataire est un client, mais celui qui prime aujourd'hui, ça reste celui avec lequel on a contracté un mandat de gestion, d'accord ? Même s'il y a aujourd'hui des évolutions qui se font sur la prise de conscience de quelle est la position du locataire, et je pense que ça, c'est essentiel. Et je pense que dès lors qu'on a aussi un mandat de gestion, on est capable aussi d'avoir une relation, contractuelle justement avec notre propriétaire, lui expliquer en fait les travaux qu'il a réalisés, parce qu'en fait... On a toute une démarche dans et je pense que c'est le cas pour nombre de professionnels, qu'ils soient de grands noms sur la place publique ou de moindre nom, d'accord, sans côté péjoratif,
il y a beaucoup d'indépendants, des agents familiales, bien sûr, exactement, et
qui vont faire attention à leur patrimoine et qui vont aussi s'assurer que des travaux sont réalisés. Réaliser des travaux, c'est pas juste une ligne de dépense, c'est surtout une valorisation et une conservation de son patrimoine. Et si aujourd'hui des propriétaires décident de garder du patrimoine qu'ils ont hérité dans certains cas au travers de successions ou sur lesquels ils ont fait un investissement, c'est bien parce que demain ils veulent avoir ce patrimoine et ils veulent le conserver. Et nous, en tant qu'administrateurs de biens, on a notre devoir de conseil et on doit apporter le conseil pour réaliser des travaux.
Alors, Jennifer, en contrepoint, vous formez des professionnels de la location, de la gestion locative. On a parlé aussi de gardiens d'immeubles. Ils jouent un rôle aussi dans la vigilance sur le patrimoine, dans l'univers social comme dans l'univers privé. Qu'est-ce que vous percevez de l'état des logements et de la sensibilité que peuvent avoir les professionnels de l'immobilier à ce service qu'il faut apporter aux locataires, parce que on a entendu des choses, mais voilà, c'est du qualitatif, c'est pas du quantitatif. On n'a pas interrogé 5000 Français, mais ils sortiraient la même chose. Il y a des mauvaises expériences, il y a des expériences très très modérées, avec, je le dis en face, des loyers qui, dans les grandes villes, même dans beaucoup de villes moyennes, sont élevés. Qu'est-ce que vous ressentez de ça? Est-ce qu'il y a une prise de conscience suffisante? Est-ce qu'elle va croissant? Vous avez une expérience aussi dans le domaine.
Alors, ce que je peux mettre en avant, c'est que il y a une réelle prise de conscience de la part des professionnels. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'il a fallu quelques années avant qu'ils se réveillent et qu'ils réalise qu'il gérait du bâti et qu'il y avait, en dehors de la notion commerciale, une notion de gestion d'un immeuble, d'un bien, de telle façon à voir
qui vieillit, qui s'abîme,
qui évolue. Et donc là, il y a réellement, depuis quelques années, une prise de conscience sur cette notion d'accompagnement quant à la réalisation de travaux et quant à la mise à location des biens. Je peux comparer avec le particulier, qui n'est loin de dénigrer, hein, je ne cherche pas à être plus l'un que l'autre, mais simplement
c'est un prospect
que...
pour le professionnel, déjà,
oui,
le particulier.
D'accord.
Voilà, donc on l'aime.
On l'aime, mais bon, la petite différence, le particulier a quand même cette problématique de ne pas connaître tous les textes et de ne pas être toujours conforme à la notion de décence.
Il ne les connaît pas ou il est indifférent au texte?
Non, je ne dirais pas qu'il ne connaît pas. Je ne dirais pas qu'il ne connaît pas. Il connaît des grandes lignes. Il connaît des grandes lignes, donc il va appliquer les grandes lignes, et puis le reste va être indifférent, on va être dans une notion, on s'entend, comme je dis toujours, on s'aime au départ et on divorce à la fin, quoi. C'est un peu ça. Donc au démarrage, tout se passe bien, et puis après, c'est sur la continuité que les choses vont être problématiques, sur le suivi de l'état du bien. C'est-à-dire qu'au démarrage, alors je suis Gaëlle, hein, comme je suis franche, je vais le dire, même avec les professionnels, le professionnel a tendance à faire très attention quant à la mise à location. Et après, la notion de gestion du bien tel qu'il est va se dégrader. Pourquoi ? Parce que le suivi n'est pas forcément sur la totalité de la vie du bien. On va être sur l'accompagnement du début. Et puis après, il y a des choses qui vont être négligées et qui vont poser problème.
Alors, on va y revenir. On rappellera qu'un locataire dans une grande ville reste en moyenne 4-5 ans dans son logement. Oui. Mais parfois, il peut rester 10 ans, 15 ans. Donc voilà, ce qu'on appelle le suivi, c'est ça, hein, cette période où le logement est occupé, où il va être usé, où il va avoir des incidents techniques, et donc ce suivi est mis en cause. Alors on va écouter nos compatriotes, comme dirait cette fois le président Macron, qui ont un avis sur la différence qu'il peut y avoir entre une gestion professionnelle et l'autogestion. Est-ce que les professionnels font le job? C'était la grande question qu'on se posait. On va voir ce qu'en pensent les ménages dans la rue.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Est-ce que ce logement était loué par l'intermédiaire d'une agence ou un propriétaire en direct?
Non, c'était un propriétaire en direct. Je n'étais pas passée par une agence. Là, je ne suis pas passée par une agence non plus. Mais c'est vrai que je pense que de passer par une agence, ça peut éviter ce genre de problème.
J'ai loué par une agence.
Alors moi, si on reste sur l'exemple de Marseille, j'étais du coup particulier à particulier. C'est clair que c'était compliqué. Si j'avais une merde le dimanche soir, fallait que j'attende au mieux le lundi matin pour passer les coups de fil. C'était pas réglé avant le jeudi, le vendredi, ça tardait, c'était long. Moi j'étais en même temps en études, donc fallait que je bosse, fallait que je révise, j'avais pas forcément le temps de passer des coups de fil pour gérer tout ça. Donc ouais, non, c'était une tannée, une vraie tannée, je m'en souviens, j'en ai gardé un mauvais souvenir. Et d'ailleurs, après je suis passé par des pros, quoi, par des agences immobilières plus classiques. Mais si à l'époque aussi j'étais pas passé par ces agences-là, c'est que j'avais pas de pognon. C'est que j'avais pas de pognon pour payer les 300, 400, 500 euros d'honoraires, quoi. Et c'était, pour moi, c'était un mois de loyer, quoi. Donc j'avais pas cette avance-là et du coup c'était compliqué.
Est-ce que vous pensez que les logements du coup loués par une agence sont en meilleur état que ceux loués par un propriétaire?
Je pense pas. Je pense que ça s'équivaut à peu près là-dessus.
Je pense, enfin j'espère en tout cas. Ce serait quand même le comble sinon.
Gaëlle, il y a tout, hein, là encore, hein, en quelques témoignages. La confiance faite aux professionnels, le doute sur le fait que les professionnels apportent de la valeur ajoutée, le coût du service. Hein, cet homme qui a été étudiant et qui dit « moi, j'avais pas les 300, 400 balles hein, », il parle très simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire... Allez, on va évidemment parler de votre entreprise, mais plus largement, que les professionnels, quand même, ont une offre locative de meilleure qualité, avec une meilleure vigilance sur l'État. Ou est-ce que, allez, bon an, mal an, c'est la même chose ?
Alors, ce serait assez malvenu que je ne vous dise pas oui.
Ah ben oui, et puis j'en serais triste. Parce que moi, je forme les futurs professionnels, je serais très triste.
Et au-delà de tout ça, en fait, quand je vous dis, c'est un oui sincère. C'est que je suis convaincue aujourd'hui que nous, en tant que professionnels, faut bien avoir en tête qu'en tant que professionnels...
Il y a la responsabilité.
Il y a la responsabilité. Deux, c'est notre métier au quotidien. C'est-à-dire que le matin, on se lève et on va pour... Enfin, notre job, c'est d'entretenir... de gérer, de conseiller, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et quand ce jeune homme dit, en fait, quand moi, le vendredi, dimanche, j'ai une galère et que peut-être que potentiellement, j'allais pouvoir régler que le problème que le jeudi ou le vendredi...
Voilà, disponibilité, vous l'avez, vous.
La disponibilité, bon. c'est ce qu'on fait au quotidien.
Est-ce que même vous avez, c'est pas le sujet du jour, mais des outils digitaux qui font que moi, si j'ai un problème le samedi, l'agence Nexity, le cabinet va pas être ouvert, mais est-ce que je peux informer du problème et est-ce que le lundi matin, sinon avant, on le traite ?
Alors... Bien entendu, aujourd'hui, et parce que, en fait, c'est ce que j'expliquais, en fait, nos clients se sont transformés, et du coup, nos métiers se sont transformés. Enfin, il faut se le dire. Et bien entendu, la digitalisation des outils et des outils de communication et même de travail. Aujourd'hui, vous avez des espaces. On a un espace dédié à chacun de nos clients, avec lequel personnalisé, sur lequel il va retrouver l'ensemble de ses documents et comptables. Et puis surtout, il va pouvoir déclarer une situation, faire une demande de documents, parce que finalement, on travaille tous avec des horaires particuliers. On n'est pas forcément disponible quand l'agence est ouverte. Et en fait, derrière, il y a un traitement qui est fait avec du coup un suivi où on indique bien au locataire ou même au propriétaire finalement que sa demande a été prise en charge.
Donc, si un sinistre, peut-être un grand mot, mais un dysfonctionnement, voilà, quelque chose qui ne va pas, et c'est le week-end ou c'est, peu importe, le jeudi, mais est-ce que je peux m'exprimer très simplement, digitalement, oui, et m'adresser au gestionnaire,
oui,
du bien ?
Oui, tout à fait. Et on est même aujourd'hui, on a travaillé déjà sur ce qu'on appelle, nous, l'assistance immeuble,
d'accord,
qui permet, pour nos copropriétés, et puis peut-être qu'il y aura des projets après pour les logements, pour permettre justement, avec le samedi soir, quand vous avez oublié vos clés et que finalement, quand vous cherchez sur votre téléphone un serrurier qui vous en met pour 800 euros
parce qu'il a juste passé une radio. C'est pas une entreprise honorable.
Aujourd'hui, on a mis à la disposition de nos copropriétés un service où ils peuvent, il y a un numéro et des entreprises qui sont référencées, que nous-mêmes, on potentiellement référence, mais qui sont disponibles 24h/24, 7 jours sur
7. J'ai perdu mon code d'entrée de l'immeuble et que je suis locataire, Je peux
tout
y accéder ?
À fait. Exactement.
Bon, d'accord. Alors, Jennifer, même chose. Votre avis sur la différence réduite ou plus importante de qualité des biens entre ceux qui sont autogérés, c'est les deux tiers aujourd'hui, et ceux qui sont gérés par des professionnels. Est-ce que vous diriez que, allez, il y a un avantage donné aux professionnels ? C'est le sentiment premier que les ménages ont. Voilà. Et puis après, ils peuvent être déçus ou ne l'être pas. Mais ils se disent, chez les pros, c'est mieux. Est-ce que vous diriez ça ?
Alors, je dirais que oui. Voilà. Je vais le dire officiellement. C'est oui, les professionnels ont quand même une valeur ajoutée qui est non des moindres.
On va parler des outils après. Troisième partie, on va parler des outils, constat d'état des lieux, etc.
D'accord. Mais en règle générale, je peux dire oui. Parce qu'il y a une véritable recherche d'aller sur le service. Alors, je ne vais pas faire une généralité parce que malheureusement, il y a toujours des vilains petits canards dans l'histoire, ce qui est un petit peu dommage parce que ça abîme la profession en règle générale. Mais pour autant, sur la grande majorité, ils ont vraiment cette volonté d'accompagner leurs locataires et d'avoir des biens qui sont quand même...
Est-ce qu'ils ont une autorité, ça c'est un vrai sujet, est-ce qu'ils ont une autorité vis-à-vis des propriétaires suffisante ? C'est-à-dire que le bien n'appartient pas à l'administrateur de biens, on le rappellera, ce n'est pas une société foncière, il est intermédiaire. Est-ce que l'administrateur de biens sait dire à un propriétaire, votre logement n'est pas en état, il faut faire ceci, il faut faire cela, on bascule sur la dangerosité, il faut refaire l'installation électrique ou il faut la parfaire. Est-ce que cette autorité, elle est suffisante en moyenne ? On ne désigne personne, mais c'est votre expérience.
D'abord, c'est une excellente question, parce qu'en règle générale, il y a cette peur d'affronter le propriétaire et de lui dire que ça va lui coûter de l'argent.
Ouais.
Il y a une véritable peur qui existe. Et alors, certains n'hésitent pas, parce que maintenant, certaines agences ont compris que de toute façon, il fallait nettoyer même leur portefeuille avec les propriétaires qui ne voulaient pas faire de travaux à ce moment-là.
Quitte
à résilier des mandats. Voilà. Oui, ça y est, il y a une démarche dans ce sens. Parce
c'est courageux, parce que ça veut dire je je perds un client, je me coupe d'une partie de mon chiffre d'affaires. Hein,
oui,
c'est ça que ça veut dire.
Mais il y a une vraie compréhension entre le sens que le client va lui coûter beaucoup plus cher sur la suite, sur la gestion des problématiques.
Puis en réputation.
Et en réputation. Hein,
parce qu'il y a des dossiers qui arrivent, allez, je veux dire, chez Julien Courbet, mais je veux dire qu'il y a une médiatisation. Et quand un immeuble s'effondre à Aubagne, alors là, c'est pas les médias, c'est la réalité, c'est violent, quoi. Hein. C'est,
mais on va de l'immeuble qui est l'extrême, et ça c'est terrible, mais jusqu'à des balcons qui tombent, jusqu'à des électrocutions, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Alors par bonheur, je vais vous dire, alors ça va aussi contrarier certains professionnels, mais d'aller sur le niveau des diagnostics, parce que les diagnostics amènent quand même une visibilité, ils ont quand même aidé malgré tout à forcer le propriétaire, quand un gestionnaire n'arrivait pas à dire les choses, à amener des diagnostics qui disaient, bah regardez, là c'est pas moi, mais c'est les diagnostics qui vous disent qu'il y a un problème. Et donc, ça va quand même dans le sens de la gestion du bien en lui-même et de l'amélioration. Et le gestionnaire se sent quand même plus à l'aise avec le propriétaire à montrer des documents qui ne viennent pas de lui, mais d'un professionnel et qui sont objectifs.
Alors, c'est très important. Là, déjà, on est entré dans les outils. Allez, troisième séquence, on va interroger aussi les locataires ou les propriétaires bailleurs, peu importe, sur l'utilité de ces divers outils. On va en parler des DIAG.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Est-ce que vous savez précisément à quoi sert un constat d'état des lieux et un dépôt de garantie ?
Constat d'état des lieux, j'en fais hein, à chaque entrée et sortie. Dépôt de garantie, j'ai quand même une mauvaise expérience. Ça m'est arrivé qu'on me garde une partie de ma caution pour des trous au mur que j'avais fait.
C'est pour vérifier qu'il y a un état bim ou quoi, ou justement pour l'état des lieux. Mais par rapport à ça, je pense que si c'est que des petits dégâts ou quoi, c'est pas forcément noté. Mais au fur et à mesure, les petits dégâts accumulés, ça détériore et on arrive à des états qui sont pas terribles.
Bon, Gaël, une conscience correcte hein, des personnes qu'on a interrogées sur ce qui était un constat d'état des lieux, c'est comme ça qu'il faudrait dire, on appelait ça un état des lieux. Et puis alors après, évidemment, des sentiments diffus, soit on m'a retenu de l'argent sur mon dépôt de garantie, sur ma caution, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais on doit dire un dépôt de garantie. Mais c'est normal finalement, hein, on entend ça, parce qu'au bout d'un moment, ça dégrade le logement. Votre avis sur ces outils, l'usage qui en est fait par les professionnels, l'usage qu'en est fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait bien les constats d'état des lieux, est-ce qu'ils sont propres? Il y a eu des lois qui, la loi Allure en particulier, qui a dit, allez, il faut que les deux constats entrée-sortie soient comparables, qu'on s'en serve bien, et puis que le dépôt de garantie serve à la rénovation du logement lorsqu'il a été... Est-ce que ça tourne bien, cette affaire-là?
Alors, je dirais que vraiment, ce qu'on appelle, enfin, dans les états des lieux, que ce soit d'entrée ou de sortie, je pense qu'en effet, alors déjà, ceux aujourd'hui qui travaillent au quotidien ont pris aussi, connaissent toute l'utilité d'un état des lieux. D'accord ? Je pense que quand est sortie la loi Allure et qu'on a justement retravaillé en disant il faut comparer ce qui est comparable, parce que c'est vrai qu'on avait des états des lieux avec enfin, c'était pas du tout les mêmes choses. Aller travailler sur une restitution de dépôt de garantie, sur deux choses qui sont incomparables, ça crée...
C'est un nid à contentieux.
On se fâche avec le locataire. Mais forcément. Soit on se fâche avec le locataire, soit on se fâche avec le propriétaire, dans tous les cas. Donc, je pense que tout ce qui est état des lieux d'entrée et de sortie, aujourd'hui... et parce qu'on a aussi compris la nécessité, alors c'est pas parce que Jennifer est avec nous aujourd'hui, mais la nécessité de passer par des professionnels. On travaille de plus en plus sur l'externalisation de ces états des lieux.
Beaucoup d'administrateurs de biens le font. Hein.
Beaucoup. Pourquoi ? Aussi parce que, comme vous le dites, c'est un aide contentieux et que finalement, il vaut mieux que ça soit une tierce personne qui fasse ces états des lieux.
Parce un tiers de confiance, comme on dit.
Un tiers de confiance, exactement. Et qui permettent finalement d'avoir une vision aussi très extérieure. Lui, il vient pour faire un état des lieux.
C'est pas facile de faire un état des lieux. Je veux dire que, très clairement, il faut connaître les termes techniques, il faut une objectivité. On sait très bien, alors, côté particulier, je crois que si l'UNPI était là, elle le reconnaîtrait, il y a du n'importe quoi. Et même côté professionnel, il faut une formation pour savoir comment on désigne l'altération de tel ou tel élément. C'est ça, hein,
c'est tout à fait. Même si on parle de vétusté, à quel moment on considère que c'est dans un bon état, que c'est dans un état moyen
Il n'y a pas de grille de vétusté aujourd'hui.
Mais non, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse vraiment... Enfin, l'état des lieux, c'est en plus, on engage de l'argent pour un locataire.
Ben oui, bien sûr.
Il faut qu'on se le dise, c'est que... Alors, sur l'état des lieux d'entrée, c'est le moment le plus agréable. Hein. Le
locataire, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux.
Et c'est comme on disait tout à l'heure, Jennifer, c'est le début du mariage, tout va bien, etc. Puis l'état des lieux de sortie, c'est un peu la douloureuse.
4-5 ans après, c'est différent.
Voilà. Et finalement, ceux qui ont fait quelques trous dans le mur ne comprennent pas qu'on puisse leur reprendre, parce que c'est à peu près ça. Hein, c'est, il fallait bien.
Mais
c'est
là qui comprennent, on l'a vu.
Il faut bien que je pose un tableau. Et pourquoi on me retiendrait de l'argent? Donc, je pense que le tiers de confiance, il est essentiel. Et aujourd'hui, on est quand même bien, en fait, le professionnel est contrôlé énormément. Et même sur ça, il y a aujourd'hui le locataire a des droits et tant mieux. Mais il faut qu'on soit aussi très très droit et en alignement avec ces états des lieux.
Sur ce fameux dépôt de garantie, alors on rappellera qu'aujourd'hui, il constitue un mois de loyer, l'équivalent d'un mois de loyer maximum. Ça a été deux mois. Sauf pour le meublé. C'est donc une espèce de réserve qui continue à appartenir au locataire, mais qui est sanctuarisée, on va dire, le temps de la location. Et puis à la fin, on voit s'il faut retenir tout ou partie. Ou voire au-delà. C'est-à-dire que s'il y a des dégradations au-delà du montant d'un loyer, il faut appeler de l'argent auprès du locataire. Vous le gardez chez Next City, ce dépôt de garantie?
Alors, ça dépend. Il y a en fait, soit on le garde, parce qu'il y a certains propriétaires qui vont nous dire, écoutez, finalement, c'est mieux que ça soit entre vos mains. Et puis, quand vous ferez l'état des lieux de sortie, vous gérerez tout.
Voilà,
et puis, certains nous demandent à ce qu'on leur reverse. Alors, c'est vrai que comptablement, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'à partir du moment où l'argent est retombé sur le compte d'un propriétaire, quand il faut aller lui redemander l'argent...
C'est plus compliqué,
mais on respecte aussi les attentes et les souhaits de nos clients. Et par rapport à ça, ça se fait assez en fonction d'eux.
D'accord. Jennifer, même regard, mais de votre balcon à vous, sur ces constats d'état des lieux, est-ce qu'ils sont bien faits en moyenne par les professionnels? Est-ce que les retenues qui sont faites sur le dépôt de garantie sont objectives? Est-ce qu'elles sont démontrées? Et puis j'ajouterai une chose, est-ce qu'elles donnent lieu aux travaux qui remettraient à niveau le logement? Parce qu'il n'y a pas d'obligation, on le rappellera, de la loi. On peut retenir de l'argent sur le dépôt de garantie du locataire, sans justifier de l'usage qui en sera fait. C'est sur devis, hein, c'est pas sur facture.
Bien d'accord.
Voilà, donc votre regard très objectif sur ce sujet.
Alors, dans un premier temps, je vais dire déjà qu'il y a une problématique là. Pour le coup, on va séparer le professionnel du particulier, qui a une petite tendance à croire que ce dépôt de garantie lui appartient et qui a beaucoup de mal à le rendre, quelquefois.
Alors que c'est une créance du locataire, on le rappelle.
Oui. Voilà. Alors qu'il va nous inventer tout et n'importe quoi pour le conserver. Je suis désolée. C'est abracadabrant. C'est vraiment assez extraordinaire, puisque je le vois en commission de conciliation.
Puis au bout de 4-5 ans, il l'a mangé, si je puis dire, ce dépôt de garantie.
Ah il l'a utilisé, oui.
Enfin, il l'a mis sur son compte, et puis point.
Et puis, il va trouver des choses assez extraordinaires. J'ai pu voir des choses assez extraordinaires pour conserver... Donc ce dépôt de garantie, en tout cas justifié qu'il le conserve. Sur cette notion, c'est quand même assez problématique et c'est ce qui crée énormément de conflits avec le locataire. Je dois dire aussi que le locataire a une petite tendance à mal interpréter les choses. Bon, elles ne sont pas toujours très claires, malgré le fait qu'on lui explique à l'entrée, qu'on lui explique durant son parcours et qu'on va lui expliquer de nouveau à la sortie quelles sont ses obligations, lui, quant aux travaux qu'il doit réaliser. Il y a une incompréhension. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette génération, comme je l'appelle, cette génération un peu Club Med. Alors, je suis désolée, mais c'est mes termes. C'est le fait de dire moi, j'ai payé, je ne comprends pas qu'on vienne me chercher encore plus.
C'est consommateur.
Voilà. Et donc, il y a une difficulté à comprendre pourquoi on vient me prendre ces trous, pourquoi on vient me prendre du nettoyage. Moi, j'ai vécu comme ça. Ils ont une visibilité qui est assez, assez étrange du bien et sur leurs propres obligations quant à...
C'est pas de la malveillance. C'est un manque de conscience de l'altération du logement. Alors, qui va ensuite passer dans les mains d'autres personnes.
Sur la majorité, oui. Sur la majorité, oui. Ça veut dire qu'il y a vraiment un véritable accompagnement à mettre en place quant à la sortie du locataire et à l'accompagnement sur ses obligations.
Est-ce qu'il faut une prévisite?
Oui, je suis...
Gaëlle, oui ou non?
Gaëlle le sait, je vote pour
oui ou non.
La prévisite.
C'est fait ou c'est pas fait dans la profession, mais votre regard.
Bon, essentiel. Voilà. Et elle deviendra de plus en plus
C'est-à-dire,
importante.
En clair, je donne mon congé et là, on me dit, écoutez, on va faire une prévisite du logement, on va regarder avec vous dans quel état il est. Et on vous laisse le temps peut-être de réparer des choses, c'est ça? Et puis voilà.
Pour le locataire comme pour le propriétaire, la prévisite, elle est essentielle.
Elle est faite dans le logement social, non ? Ça existe avantage.
Alors, elle est faite dans le logement social. Elle est proposée automatiquement. Maintenant, le locataire accepte ou n'accepte pas, hein, qu'on soit bien d'accord.
Oui, c'est pas dans
mais
la loi,
les,
bien sûr.
Dans le milieu social, il y a eu vraiment une grande avancée en faisant ces prévisites. Et du coup, bah, ça a limité quand même les conflits à la sortie. Et c'est problématique. On arrivait à être pris à la gorge en disant bah, tiens, t'aurais pu reboucher deux trous, tu l'as pas fait, tant pis, on te les compte. Un mois avant, on essaye d'aller voir le locataire quand c'est possible, puisque en fonction des zones, c'est pas toujours très évident, c'est ça aussi hein, qui presse. Mais pour autant, on essaye de l'accompagner quant aux réalisations de travaux qu'il doit faire. Et des fois, c'est des choses infimes, quoi. Hein, et ça évite de nombreux conflits.
Alors, on est au bout de la demi-heure qui nous était impartie pour essayer d'examiner l'essentiel des sujets qui impactent la qualité des logements locatifs gérés par des professionnels ou autogérés. On rappellera qu'il y en a encore les deux tiers qui sont autogérés, donc les professionnels ont une marge de manœuvre. Mais d'évidence, ils ont des outils pour faire mieux que le particulier. C'est un peu le sentiment des locataires, hein, on l'a entendu dans la rue. Moi, je voudrais remercier toutes les deux parce que vous avez des choses très franches qu'on entend pas toujours, hein, voilà. On entend parfois l'apologie des professionnels ou l'apologie des particuliers qui autogèrent et ça coûte rien. Je crois que vous avez été très très clair sur ce qui se passait. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Jennifer. Je remercie
Merci.
Gaëlle.
Merci.
Je donne rendez-vous aux auditeurs David Valeur pour dans un mois. Voilà. C'est notre fréquence. Et faites des belles locations pour changer de vie pour l'année qui vient. Bientôt.
Avis de valeur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.